vendredi 14 juillet, bienvenue dans cette édition du Débrief. Bon retour à la maison et début de fin de semaine si vous sortez du travail. Merci de syntoniser le 107.9 FM ou encore de nous écouter à l'adresse cilsfm.ca où que vous soyez dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. J'essaierai de vous guider du mieux que je le pourrai à travers les nombreuses actualités internationales, nationales et provinciales au cours de la prochaine heure. Nous allons aujourd'hui parler d'accès au logement avec notre chroniqueuse régulière Marie-Hélène Bourret. Nous allons nous pencher sur une solution originale proposée dans l'édition juillet-août du magazine Focus, une publication gratuite et locale. Bonne émission à tous! Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne au cours de la prochaine heure avec les infos du jour, infos du monde, infos du Canada et de Colombie-Britannique. Voici tout de suite votre revue de presse internationale. On commence dans les colonnes du journal Le Monde, le gouvernement catalan remanié en vue du référendum d'autodétermination. Quatre membres qui n'étaient pas disposés à affronter tous les risques pénaux et patrimoniaux liés à la convocation d'une consultation jugée illégale par la capitale espagnole, Madrid, ont été relevés de leurs fonctions. C'est ce que nous apprend le journal Le Monde. Le processus indépendantiste engagé par le gouvernement catalan ne peut tolérer aucune réticence ni le moindre doute de la part de ses membres. Le président catalan, le nationaliste de droite Carles Puigdemont, et le vice-président, l'indépendantiste de gauche républicaine Oriol Junqueras, ont été clairs sur ce point en annonçant vendredi 14 juillet un remaniement du gouvernement régional catalan. Monsieur Puigdemont a mesuré durant toute la semaine le degré de conviction de ses ministres conseillers régionaux et leur disposition à affronter les conséquences juridiques, pénales et patrimoniales de l'organisation d'un référendum d'autodétermination unilatérale le 1er octobre prochain. Car Madrid, la capitale espagnole, est disposée à utiliser l'arsenal judiciaire dont il dispose pour freiner ce processus, indique le journal Le Monde dans cet article. À la suite de ces réunions, trois des membres du Conseil ont été relevés de leurs fonctions par les dirigeants catalans. Je ne révoque personne, a tenu à préciser M. Puigdemont, alors que de nombreux critiques antinationalistes ont évoqué une purge. Alors voilà, si vous vous intéressez au mouvement qui promeut l'indépendance de la Catalogne dans l'Espagne, c'est dans le journal Le Monde en date du 14 juillet. On va se déplacer maintenant du côté du quotidien économique La Tribune. C'est un quotidien économique et financier européen à l'adresse latribune.fr. La crise grecque a rapporté plus de 1 milliard d'euros aux finances allemandes. C'est un article signé par Jean-Christophe Catalon. Entre les prêts accordés à Athènes et les programmes de rachat de titres de dette, les organismes allemands ont récolté 1,3 milliard d'euros depuis le début de la crise. Le ministère des Finances allemand a rendu public les profits engrangés grâce aux intérêts des prêts accordés à la Grèce. Résultat, Berlin a encaissé 1,3 milliard d'euros depuis le début de la crise en 2009, révèle un quotidien important allemand. Dans le détail, la banque de développement allemande KfW a encaissé 393 millions d'euros d'intérêts du prêt de 15,2 milliards d'euros qu'elle a accordé à Athènes en 2010. Entre 2010 et 2012, un programme de rachat de titres de dette d'État par les banques centrales de la zone euro a permis à la Bundesbank d'enregistrer un profit de 952 millions d'euros. Les États membres de l'Union européenne s'étaient pourtant accordés pour reverser les profits des banques centrales à la Grèce, précise cet article du journal La Tribune à l'adresse latribune.fr. Donc on découvre à travers cet article que les institutions financières allemandes ont profité de la situation de crise en Grèce. Extrême-Orient maintenant, en faisant un retour dans les colonnes du journal Le Monde, Pékin impose le silence sur la mort de Liu Xiaobo. La Chine censure sur Internet toute référence aux dissidents chinois et rejette les critiques des pays occidentaux, apprend-on dans cet article signé par Harold Thibault. C'est dans le journal Le Monde, je le rappelle. L'annonce de la disparition du prix Nobel de la paix 2010, jeudi 13 juillet dans la soirée dans un hôpital du nord-est de la Chine, laisse le milieu des droits de l'homme chinois abattu. Les dissidents y voient la la preuve de la détermination de Pékin à les écraser et du poids bien trop important pris par la Chine pour que ses partenaires diplomatiques risquent tout pour leur cause. Le 26 juin, rappelle cet article du journal Le Monde, les autorités pénitentiaires et les anciens avocats de l'opposant chinois Liu Xiaobo avaient rendu public son hospitalisation à Shenyang, dans le nord-est de la Chine. C'est dans cette région que Liu Xiaobo purgeait la peine de 11 années d'emprisonnement pour « subversion », entre guillemets, peine à laquelle il avait été condamné en 2009 pour avoir rédigé un an plus tôt un manifeste en faveur de la démocratisation de la Chine. Et cet article rappelle qu'en raison de sa maladie, ce dissident demandait à être transféré à l'étranger. Et toujours à propos de cet opposant chinois, le comité Nobel profondément inquiet pour la femme de Liu Xiaobo. C'est dans le fil de l'agence France Presse, le comité Nobel norvégien s'est dit vendredi profondément inquiet pour Liu Xia, l'épouse du dissident chinois Liu Xiaobo. Et le comité Nobel donc a appelé la Chine à lui permettre de quitter le pays. Après la mort de Liu Xiaobo, jeudi, premier prix Nobel de la paix à mourir privé de liberté depuis le pacifiste allemand Karl von Ossietzky décédé en 1938, les regards se tournent vers son épouse, la poétesse Liu Xia, en résidence surveillée depuis 2010. Dans une déclaration envoyée à l'AFP, le comité Nobel s'est dit profondément inquiet quant à la situation de Liu Xia après la mort tragique de son mari. « Nous appelons les autorités chinoises à lever toutes les restrictions qu'elles lui ont imposées. Si elle veut quitter la Chine, il n'y a aucune justification pour lui interdire l'opportunité de le faire », a ajouté le comité Nobel dans cette déclaration. Vous aurez ça dans le fil de l'agence France Presse. Politique chinoise à nouveau, encore dans les colonnes du journal Le Monde, quatre nouveaux députés de l'opposition déchus de leur mandat à Hong Kong. La décision de la Haute Cour illustre l'intransigeance et l'inquiétude du gouvernement chinois depuis l'arrivée en octobre 2016 d'une nouvelle opposition très radicale au Parlement local de Hong Kong. On rappelle bien sûr qu'on a souligné les 20 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine il y a quelques jours à peine, donc ça demeure dans l'actualité, et cette nouvelle de la décision de la Haute Cour chinoise est justement dans cette actualité. La Haute Cour de Hong Kong, peut-on lire, a rendu son verdict vendredi 14 juillet. Quatre députés de l'opposition en poste depuis octobre 2016 ont été déchus de leur fonction parlementaire pour avoir mal prêté serment. Alors qu'une certaine tolérance vis-à-vis des irrégularités pendant cette cérémonie a longtemps prévalu, cette décision illustre le raidissement, voire l'inquiétude du gouvernement chinois face à l'arrivée sur la scène politique d'une nouvelle opposition bien plus radicale que le vieux camp pro-démocrate. Depuis l'arrivée de voix dissidentes au Parlement local de Hong Kong, le Let Go, lors des élections de septembre 2016, l'ancien chef de l'exécutif, Leung Chun-ying, a en effet eu recours à une nouvelle tactique d'élimination par procédure judiciaire, une première dans la brève histoire de la région administrative spéciale de Hong Kong. L'intervention de Pékin dans le débat en novembre 2016 a conforté la méthode du chef de l'exécutif et a de fait scellé le sort des accusés. Hong Kong qui lutte pour ses droits démocratiques, c'est dans le journal Le Monde. Quatre nouveaux députés de l'opposition déchus de leur mandat à Hong Kong. Aux États-Unis maintenant, une nouvelle aperçue dans le fil de l'agence Reuters. Jimmy Carter quitte l'hôpital après une déshydratation. L'ancien président américain Jimmy Carter est sorti vendredi de l'hôpital canadien où il était soigné pour une déshydratation alors qu'il participait à un événement caritatif, a annoncé la fondation Carter. Jimmy Carter, 92 ans, s'est senti mal jeudi matin sur un chantier de l'association caritative Habitat for Humanity à Winnipeg, au Canada. Un chantier dédié à la construction de logements, ont raconté des témoins présents lors de l'incident. L'ancien président américain en état de déshydratation a été transporté à l'hôpital Saint-Boniface par précaution, a déclaré la Fondation Carter dans un communiqué. L'ancien président est retourné sur le chantier vendredi matin pour célébrer le dernier jour des travaux du projet de l'association caritative. Candidat du Parti démocrate, Jimmy Carter a été président des États-Unis de 1977 à 1981, rappelle cette dépêche de l'agence Reuters. On va passer de Reuters à l'AFP pour vous parler du Venezuela. L'opposition lance une consultation populaire contre Maduro. L'opposition vénézuélienne organise dimanche une consultation populaire symbolique contre le président Nicolas Maduro et son projet de refonder la Constitution après plus de 3 mois de manifestations violentes dans ce pays englué dans une crise politique. Présenté comme un acte de désobéissance civile, ce vote qui se déroulera sans l'aval des autorités vénézuélienne a pour but, explique l'opposition, de matérialiser le rejet par la population de la future assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro. Selon l'institut de sondage Datanalis, près de 70% des Vénézuéliens sont opposés à la constituante et 80% dénoncent la gestion du chef de l'État d'un pays en partie paralysé et traumatisé par plus de 3 mois de manifestations violentes qui se sont soldées par 92 morts. L'Assemblée constituante voulue par le chef de l'État et dont les 545 membres seront élus le 30 juillet aura pour mission de modifier la constitution en vigueur pour assurer, selon Nicolas Maduro, la stabilité politique et économique du Venezuela. Vous aurez cette nouvelle dans le fil de l'agence France-Presse, l'AFP. Portail de RFI, Radio France Internationale, à l'adresse rfi.fr. Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala en détention. Le scandale brésilien, qui vaut une condamnation à 9 ans et demi de prison à l'ex-président Lula au Brésil, s'étend à d'autres pays d'Amérique du Sud. Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala et sa femme ont été placés jeudi 13 juillet en détention provisoire. Tout comme Lula da Silva au Brésil, ils sont accusés de corruption. C'est du Brésil que sont venues les accusations contre Ollanta Humala et sa femme, apprend-on dans cet article de RFI, des cadres d'un groupe de BTP brésiliens touchés par le scandale Petrobras ont affirmé avoir donné 3 millions de dollars de pots de vin à Ollanta Humala, qui a dirigé le Pérou de 2011 à 2016. Une accusation inacceptable aux yeux de l'avocat de ce dernier, précise l'article de RFI. Donc l'instabilité qu'on connaît au Brésil semble vouloir se déplacer ailleurs dans la région. Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala est en détention. C'est le titre de cet article de RFI. Portail de West France maintenant à l'adresse westfrance.fr. Les inondations dans le nord-est de l'Inde, le bilan s'alourdit. Au moins 83 personnes sont mortes dans les inondations provoquées par la crue du bassin du Brahmapoutre dans le nord-est de l'Inde. La région est aussi connue pour la richesse de sa faune avec plus de 80% de la population de rhinocéros indiens. Les inondations dans le nord-est de l'Inde ont fait au moins 83 morts et entraîné l'évacuation de plus de 2 millions d'habitants dans les zones touchées, ont rapporté les autorités. Les États concernés par les pluies diluviennes et les glissements de terrain de ces 2 dernières semaines sont l'Assam, l'Arunachal Pradesh, le Nagaland et le Manipur. Mentionnons quelques articles de fond. Le premier paraît dans le monde diplomatique à la recherche du modèle écologique suédois. C'est dans le numéro de juillet 2017 du monde diplomatique à l'adresse monde-diplomatique.fr. Les pays d'Europe du Nord avancent concrètement dans la transition écologique depuis un quart de siècle, comme on peut s'en rendre compte auprès de ceux qui la mettent en œuvre en Suède. C'est un article que signe Florence Bauger dans le Monde diplomatique. On peut par exemple lire dans cet article de fond le passage suivant. Si la Suède a pu entamer très tôt sa transition énergétique, c'est d'abord parce qu'elle est un pays bien loti, estime une journaliste interviewée dans cet article du Monde diplomatique. La Suède, en effet, a de nombreuses richesses naturelles, peu d'habitants, un niveau de vie élevé et une croissance économique robuste. En plus, elle souffre peu des conflits internes. Pour cette journaliste, donc, au quotidien Dagens Nyheter, l'absence d'énergie fossile a constitué une bénédiction pour la Suède, car elle l'a obligée à inventer d'autres ressources. Avec son gaz et son pétrole, la Norvège voisine est vue comme équivoque dans sa conversion officielle à l'écologie. Un article fascinant qui paraît dans le numéro courant, le numéro de juillet du Monde diplomatique à l'adresse mondediplomatique.fr. Et l'autre article de fond que je tenais à vous proposer, c'est en fait une interview. Une interview qu'a menée la Canadienne Naomi Klein avec le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste britannique, donc l'opposition à la première ministre Theresa May. On sait que Jeremy Corbyn a repris en main le Parti travailliste britannique. Il l'a éloigné de la mouvance blairiste troisième voie que l'on avait connue au cours des 20 ou 25 dernières années. Et Jeremy Corbyn est résolument progressiste, résolument à gauche. On a une belle entrevue entre lui et Naomi Klein dans le portail du média indépendant TheIntercept.com. TheIntercept.com, c'est une entrevue qui fait plus d'un quart d'heure et que je vous recommande chaudement. Et c'est là-dessus qu'on va conclure cette revue de presse internationale pour le 14 juillet. Restez à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale. Je vous reviens dans quelques instants avec une revue de presse canadienne. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone préférée dans la grande région de Victoria, le 107.9 FM. Alexis Gagnon avec vous. Nous allons passer à présent à la revue des actualités canadiennes et tout de suite, on se rend sur le portail de La Presse à l'adresse lapresse.ca. 5 employés poursuivent le SCRS pour 35 millions de dollars. 5 employés du Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, poursuivent l'agence pour la somme de 35 millions de dollars. Ils allèguent avoir subi du harcèlement et de la discrimination basée sur leur religion, leur ethnicité, leur genre et leur orientation sexuelle pendant des années. Une poursuite déposée en cour fédérale stipule que du harcèlement, de l'intimidation et de l'abus d'autorité sont monnaie courante au sein du SCRS et que les patrons tolèrent ce type de comportement. La poursuite repose sur l'expérience de 5 employés qui ne peuvent être légalement identifiés dans le document. Les employés affirment que le harcèlement vécu au cours des années leur a causé plusieurs dommages, dont une perte de salaire, de la dépression et de l'anxiété. Vous trouverez également cet article dans le fil de La Presse canadienne. 5 employés poursuivent le SCRS pour 35 millions de dollars. Toujours dans le journal La Presse, sous la plume du journaliste Hugo de Grandpré, et il s'agirait d'une exclusivité, le lobbying explose à Ottawa. Le lobbying explose ces jours-ci à Ottawa, écrit le journaliste, et les lobbyistes d'Allégeance libérale peuvent se targuer d'avoir un meilleur accès aux hautes sphères du gouvernement Trudeau, selon une analyse menée par La Presse. Le registre fédéral du lobbying montre en effet que tant les inscriptions que les communications connaissent une forte hausse à l'heure actuelle. Et bien des lobbyistes reconnaissent eux-mêmes que les relations avec le gouvernement ont considérablement augmenté depuis que les libéraux ont repris le pouvoir en 2015. Selon l'analyse des données brutes du registre fédéral mené par le journal La Presse, le nombre de communications déclarées par les lobbyistes avec des représentants du gouvernement fédéral a presque doublé, passant d'une moyenne de 29 contacts par jour sous le gouvernement Harper à 53 sous le gouvernement Trudeau. Des 5 lobbyistes conseils qui ont déclaré avoir eu le plus grand nombre de communications avec le gouvernement Trudeau depuis les dernières élections, 4 ont des liens avec le Parti libéral du Canada. Donc vous trouvez cet article dans le portail du journal La Presse, le lobbying explose à Ottawa, c'est écrit par le journaliste Hugo de Grandpré. Retour dans le fil de La Presse canadienne un petit moment. Alena Trudeau rencontre des gouverneurs américains. Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré des gouverneurs de plusieurs États américains vendredi. Ceux-ci ont insisté auprès de Justin Trudeau sur l'importance d'un accord de libre-échange nord-américain qui pourra survivre aux renégociations et être renforcé, indique cette dépêche de La Presse canadienne. Le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, est sorti de la rencontre en reconnaissant les différends entre les deux pays quant au politique sur les produits laitiers, tout en réfutant l'idée que tout irritant pourrait entraîner le démantèlement de l'ALENA. Alors Scott Walker, c'est un individu très radicalisé, très à droite, même pour le Parti républicain américain, je le signale entre parenthèses. C'est un gouverneur qui s'est signalé notamment par la guerre qu'il a déclarée aux employés syndiqués de son État. Je crois que c'est aussi un climato-sceptique et quelqu'un qui ne reconnaît pas les droits des femmes à l'avortement, par exemple. Un peu plus loin dans cet article, on peut lire que la délégation canadienne est dirigée par Justin Trudeau. Au cours de la journée, le premier ministre devait prononcer un discours aujourd'hui. Il devait aussi rencontrer les gouverneurs du Kentucky, du Wisconsin, du Rhode Island, de l'Iowa et du Colorado, en plus de discuter avec le vice-président américain Mike Pence, le numéro 2 de l'administration Trump. Section économie du portail de Radio-Canada, on apprend que Sears compte verser des milliers de dollars à des hauts dirigeants, alors que l'entreprise, vous le savez, est sous la protection de la loi sur les faillites. Alors que des milliers d'ex-employés de Sears n'ont pas perçu d'indemnité de départ, la compagnie prévoit verser des primes élevées à ses hauts dirigeants, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada. Selon des documents de la Cour, Sears compte verser jusqu'à 7,6 millions de dollars à 43 personnes, 43 hauts dirigeants du siège social de la compagnie à Toronto. Sears Canada souligne que ces versements, qui font partie d'un programme de maintien des employés, ont été approuvés par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Des versements qui sont essentiels pour conserver des membres du personnel durant la période de restructuration, a indiqué par courriel un porte-parole de la compagnie. Bon, évidemment, vous vous en doutez, cette décision de Sears suscite bien des critiques sur les médias sociaux et dans les médias en général. Vous trouverez cette nouvelle dans la section économie du portail de Radio-Canada. Retour dans les pages du journal La Presse. Québécois mort en Thaïlande. Cazès était au cœur d'une enquête du FBI. C'est un article écrit par Vincent Larouche. Un informaticien québécois trouvé mort dans sa prison à Bangkok mercredi était au cœur d'une enquête du FBI sur le site Alphabet, un des plus grands marchés clandestins en ligne de la planète pour la vente de drogue, d'armes et de données personnelles liées aux fraudes bancaires, selon ce qu'a pu confirmer le journal La Presse. En Mauricie, la région du Québec d'où il était originaire, plusieurs personnes ont fait part de leur tristesse hier en apprenant la nouvelle du décès du Québécois Alexandre Cazès. « Mon fils unique est décédé », a écrit sur Facebook la mère d'Alexandre Cazès en annonçant qu'elle partait pour la Thaïlande. La police thaïlandaise, peut-on lire dans cet article, venait de confirmer aux médias locaux que son fils, un informaticien de 25 ans originaire de Trois-Rivières, avait été trouvé pendu avec une serviette dans la salle de bain de la prison où il était détenu depuis son arrestation à la demande des autorités américaines le 5 juillet. Cette nouvelle, je le répète, paraît dans le portail du journal La Presse. Québécois mort en Thaïlande, Alexandre Cazès était au cœur d'une enquête du FBI sur le site Alphabet. Tournons-nous à présent vers le portail ledevoir.com, le portail du journal Le Devoir, un article écrit par Marie Vastel, correspondante parlementaire du journal à Ottawa. C'est un article qui revient sur la nomination de Julie Payette au poste gouverneur général du Canada et ça s'intitule « Julie Payette heureuse de pouvoir servir à nouveau le Canada ». Elle a su apprendre à opérer le bras spatial canadien en orbite. Julie Payette a bon espoir qu'elle parviendra maintenant à trouver ses repères diplomatique et constitutionnel en tant que gouverneur général. L'ancienne astronaute québécoise a accepté, émue, sa nomination en promettant d'entrée de jeu de poursuivre sa promotion des sciences et des technologies. Le rôle est avant tout symbolique, écrit Marie Vastel dans cet article. Julie Payette sera dès l'automne chargée d'accueillir les dignitaires en visite au Canada, de représenter le pays à l'étranger, d'accorder la sanction royale au projet de loi et de prononcer les discours du trône du premier ministre Justin Trudeau au Sénat. En de rares occasions, cependant, les représentants de la reine peuvent être appelés à trancher le sort d'un gouvernement, comme l'avait fait sa prédécesseur Michael Jean en 2008, en accordant une prorogation à Stephen Harper, qui s'apprêtait à être renversé par une coalition. Voilà, donc c'est un portrait bio, si vous voulez, de Julie Payette, écrit par Marie Vastel dans le journal Le Devoir suite à la nomination de l'astronaute canadienne au poste de GG, gouverneur général du Canada. On va terminer cette revue de presse canadienne avec un article aperçu dans le portail indépendant Ricochet, côté francophone de ce portail qui se situe à l'adresse ricochet.media. Le combat administratif des apatrides, c'est un article signé par Catherine Dib. Omar Ben Ali, écrit-elle, n'a pas vu ses 7 enfants depuis 9 ans. L'apatride d'origine palestinienne se bat contre une situation kafkaïenne. Et vous le savez, une situation kafkaïenne, c'est une situation inextricable, extrêmement complexe et sans issue. Alors qu'il a reçu l'ordre de déportation du Canada, écrit la journaliste, il ne peut toutefois retourner dans son pays d'origine, la Cisjordanie. Son pays n'a pas d'existence légale aux yeux de la communauté internationale et Israël contrôle les entrées et sorties des Palestiniens sur ce territoire. Les autorités israéliennes ont donc refusé sa déportation. Résultat, Omar Ben Ali se retrouve dans les limbes administratifs et juridiques du Canada. Un article fascinant sur ce Palestinien qui a quitté la Palestine en 2008 et qui se retrouve en deux chaises, si vous voulez, incapable de retourner dans son pays, sujet à un ordre de déportation qu'Israël refuse. On peut par exemple lire dans cet article le passage suivant « Les personnes dans la situation d'Omar font face à un vide juridique à long terme au Canada, selon le Conseil canadien pour les réfugiés. Aucune instance gouvernementale au Canada n'est responsable de la détermination d'un statut d'apatride. Le ministère Citoyenneté et Immigration n'a jamais voulu accepter que la question des apatrides soit digne d'intérêt », déplore Janet Dench, directrice du Conseil canadien pour les réfugiés. Selon Mme Dench, le problème fondamental, c'est l'absence du Canada de la Convention relative au statut des apatrides, qui leur donne une protection et établit leurs droits au même titre que les réfugiés. D'autres issues sont possibles pour les apatrides, comme la demande de considération d'ordre humanitaire. Malheureusement, poursuit Mme Dench, interviewée dans cet article, c'est un processus discrétionnaire et les lignes directrices ne mentionnent pas aux agents de prendre en considération la situation particulière des personnes apatrides. Voilà, donc un article sur le combat administratif des apatrides au Canada. C'est dans le portail Ricochet, sous la plume de la journaliste Catherine Dib, en date du 13 juillet. Voilà qui complète cette revue de presse canadienne. Dans un instant, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec notre chroniqueuse régulière, Marie-Hélène Bourret. On va parler d'accès au logement, de logement social, et nous allons soulever une solution originale qui est évoquée par une chroniqueuse dans le magazine Focus, dernière édition, édition de juillet. La chroniqueuse s'appelle Leslie Campbell. Elle propose de remplacer les stationnements à étage, les parkades du centre de Victoria par du logement social. Écoutez, c'est dans un instant en compagnie de Marie-Hélène Bourret. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de te retrouver en studio ici au 12-18 Langley.
Ben, c'est un plaisir de m'y retrouver.
Formidable. Donc aujourd'hui, on parle du magazine gratuit Focus, un mensuel qu'on a la chance d'avoir ici à Victoria. C'est un mensuel très dense en idées, en projets. C'est un mensuel qui s'intéresse à la culture et aux gens de Victoria. Le nouveau numéro juillet-août est sorti récemment. On a repéré tous les deux un article qui
a attiré notre attention,
c'est le moins qu'on puisse dire. Espérons qu'on va pouvoir y faire justice aujourd'hui. C'est un article qui parle de vivre ensemble, vivre en société, de justice sociale. C'est signé par Leslie Campbell, c'est une chroniqueuse du magazine gratuit. Focus, en passant, que vous pouvez trouver chez votre coiffeur, votre café, dans différentes boutiques du centre-ville.
C'est gratuit, hein, on le dit.
C'est ça, c'est gratuit. On a aussi le contenu en ligne. Je suis allé consulter quelques articles en ligne récemment aussi. Et donc, cet article parle de d'accès au logement.
Ouais.
On sait qu'on a un problème d'accès au logement très criant ici à Victoria et à l'échelle de la province.
Oui.
Peut-être quelques chiffres, Marie-Hélène?
Ben, en fait, en décembre dernier, décembre 2016, on comptait un demi de 1% de logements disponibles. Alors, un demi de 1%, on n'a pas le choix. Là. Ce qui est là, c'est ce qu'on doit prendre si on est dans la rue.
Et les propriétaires dictent leurs conditions.
Absolument. C'est un peu comme dans le marché de la vente et de l'achat de la maison. Hein, c'est un marché de vendeurs. C'est pas un marché d'acheteurs. C'est la même chose pour les logements. On sait aussi, selon le dernier Point in Time qui a été fait en 2016, en février 2016.
Ça, c'est une étude auprès...
C'est une étude... Ben, en fait, c'est une étude pan-canadienne, mais dans chacune des localités qui veulent bien y participer. Et c'est fait auprès des gens qui sont sans-abri dans une nuit de février 2016. Le prochain est en février 2018. On a recensé 1347 personnes sans-abri, c'est-à-dire des gens qui étaient soit dans des refuges, dans des abris, directement dans la rue ou dans des maisons de transition. Parce qu'ils n'ont pas la définition du sans-abrisme, c'est qu'on n'a pas de prospect, de possibilité de logement. Alors, on est sans-abri à ce moment-là. C'est plus que ça, les vrais chiffres, parce que il y avait 13 organismes qui offrent des abris, des refuges, qui n'ont pas participé à cette chose-là, principalement parce que c'est des abris pour les femmes battues, pour les l'adolescent en fugue, qui veulent pas nécessairement que ça soit connu.
Dans cet article, il est question, bien sûr, des sans-abri, du problème d'itinérance à Victoria, mais il est aussi question des travailleurs à petits revenus, des travailleurs à revenus modestes.
Ben, en fait,
et c'est justement dans cette optique-là que l'auteur Leslie Campbell a écrit sa chronique.
Ouais.
Je pense qu'elle est très claire en disant que la maire de Victoria, Lisa Helps, et toute la classe politique, les leaders de la communauté reconnaissent qu'il y a un problème.
Effectivement.
Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème.
Oui.
La chroniqueuse dit « les efforts sont insuffisants ».
Oui.
Et pour revenir aux chiffres, on peut peut-être en donner un dernier.
Oui.
Une récente étude a démontré que 50% des foyers dans la grande région de Victoria ne peuvent se permettre que 13,7% des maisons.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que parmi les prix des appartements, des maisons qui sont disponibles, ben, c'est pas tout le monde qui est capable d'accéder à ça. Il y a juste 13% des logements qui sont payables, qui sont accessibles pour la moitié de la population. Donc, ces gens-là, c'est important de le dire, sont à risque de devenir sans-abri.
Oui, c'est ça, les petits revenus, les revenus modestes.
Les travailleurs pauvres.
Il y a des gens qui vivent dans leur voiture, là, parce que... Et qui travaillent.
Et qui travaillent.
Qui ont un emploi.
Ben, elle parle, justement, de ces salaires qui sont salaires minimum ou un petit peu plus élevés.
À peine. Oui.
Et les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts.
Alors... Il y a des efforts qui ont été consentis par la ville. On peut en citer quelques-uns.
Oui.
La chroniqueuse le fait d'entrée de jeu dans son papier. La ville a notamment retiré la nécessité de rezoner les jardins.
Oui.
Donc, les gens qui veulent ajouter un petit logement...
Dans leur sous-sol
ou dans leur cour, c'est facile de faire. Le processus administratif n'est plus lourd
Ouais.
Désormais.
Ouais.
On a aussi approuvé un moratorium sur les permis de démolition des logements locatifs.
Ouais.
On a également, parce qu'on accordait ces permis à gogo.
Oui, et les gens transformaient à ce moment-là en condominium de
et
luxe.
Voilà, c'était une transition du jour au lendemain et les gens se retrouvaient...
À la rue.
À la rue. Tout simplement. On a aussi débattu de l'opportunité éventuellement de taxer les propriétés laissées vacantes en attendant un achat.
Ben comme on fait en Vancouver maintenant, il y a une taxe qui est mise pour ces appartements vides.
Alors, ça n'est pas encore fait,
non.
Mais c'est envisagé.
Ouais.
On a aussi accéléré le processus de demande de développement de loyers locatifs.
Ouais.
Donc c'est plus facile de passer à travers les étapes pour bâtir du logement locatif à Victoria. C'est la moindre des choses.
Ouais.
Il y a une demande criante.
Mais encore là, est-ce qu'ils seront abordables? C'est une autre question. Il va falloir qu'il y ait une étape de plus qui soit faite par le CRD.
Voilà. Et cette chronique mentionne aussi qu'avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Colombie-Britannique, ça pourrait
tous les espoirs favoriser. Sont permis.
Tous les espoirs sont permis. On vit d'espoir actuellement.
Ouais.
La chroniqueuse rappelle que les travailleurs revenus modestes, on les croise tous les jours. Ce sont les gens qui nous servent le café. Ce sont
24 000 personnes ici au centre-ville de Victoria.
Voilà.
Tourisme, hôtellerie, restauration, coiffeuse, les gens qui travaillent dans le secteur des petits magasins. Petit magasin, par exemple, et tout ça. Ces gens-là sont au salaire minimum ou un petit peu plus élevé.
Oui.
Le fait d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure au lieu de, je sais pas, 10,85, je crois.
Actuellement, c'est 10,85,
oui. Je pense pas que ça règle le problème si on continue à louer un bachelor 1250 $ par mois.
Très bien dit. C'est d'ailleurs le propos de la chroniqueuse.
Parce que pour qu'un appartement soit considéré comme abordable, il faut qu'on ne dépense pas plus que 30% de notre revenu avant taxe pour le logement. Alors, quelqu'un qui gagne le salaire minimum à 40 heures par semaine, ça veut dire que ça serait à peu près 750 $ par mois.
Oui.
Moi, je suis chanceuse, j'ai un bachelor à 700 $ par mois, tout inclus.
Oui, et
mais
quand on dit bachelor, c'est
gens.
Un 2,5, c'est ça?
Non, même pas, c'est une pièce.
C'est une pièce, un studio?
C'est un studio.
D'accord.
Mais il y en a pas beaucoup de ça, là.
On est beaucoup dans ce cas-là, effectivement, cet article-là a des échos parmi tous les travailleurs à revenus modestes qui sont si nombreux et que la chroniqueuse décrit. Donc, c'est pas une abstraction, là, ces gens-là.
Non.
Ils existent et ils sont au service de la population, ici même, au centre-ville de Victoria. Et on les pousse à la rue chroniquement.
Ouais. Et un des problèmes aussi que l'on voit, c'est que les gens pour venir travailler au centre-ville doivent venir, je sais pas moi, de Royal View, de Mill Bay même, de Duncan.
Ouais.
Il y a des gens qui n'ont pas de travail dans leur endroit de résidence, doivent venir vivre ici. Ils arrivent avec leurs autos, il y a l'essence, alors tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et travailler ici, c'est pas une option. Dormir ici, c'est pas une option parce que, évidemment, c'est trop cher.
Et pour ces gens-là, c'est pas un problème de chômage, c'est un problème de pouvoir d'achat.
Oui.
À un moment donné, on travaille 40 heures,
on
rend service à la société d'une manière ou d'une autre, mais... la société ne nous permet pas de vivre correctement.
Il y a un terme bien clair qui est utilisé maintenant, c'est le travailleur pauvre.
Voilà, le travailleur pauvre.
Alors les gens, il y a souvent un stigma, et moi je l'ai rencontré dans l'étude qu'on a faite avec la société francophone de Victoria dans le programme Vers toi, comprendre pour mieux aider, c'est que on s'imagine souvent que les gens qui sont à la rue, ben, c'est des gens qui font un dolce vita, qui ont des problèmes de drogue. Mais en fait, les problèmes de drogue et d'alcool dans la rue, c'est pas si fréquent que ça par rapport à notre image qu'on en a. Il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré, même dans la communauté francophone ici, qui sont en attente de logement social depuis 3 ans.
Oui.
Et pourtant, qui travaillent.
Oui, alors le travailleur pauvre, une espèce de sous-prolétariat qui n'est pas pris en compte malheureusement. Et tout ce préambule, Marie-Hélène, pour arriver
à une solution
qui est proposée par la chroniqueuse. Parce que rappelez-vous, la chroniqueuse d'entrée de jeu a dit que les solutions étaient insuffisantes.
Ouais.
Donc il faut continuer à lutter contre cette crise du logement.
Mais il y a un problème.
Qu'est-ce qu'elle propose?
En fait, un des problèmes que l'on retrouve quand on veut construire, c'est le manque de place. Hein, d'abord, oui. Les terrains, les prix, on n'en parle même plus. Je veux dire, c'est incompréhensible. On est sur une île, oui. On est dans une ville qui est de la difficulté. On veut empêcher d'une certaine façon l'étalement urbain. Oui. Parce que on vit beaucoup économiquement sur notre tourisme qui vient pour l'environnement, pour les forêts.
Alors la solution va peut-être
c'est la ville. C'est la ville. Et où en ville peut-on trouver des espaces? Mm-hmm. Ben c'est dans les stationnements hors terre.
Les stationnements à étage.
Les stationnements à étage hors terre.
Qu'on appelle parkades ici
en anglais. Donc les stationnements extérieurs à étage. Et y en a-tu beaucoup de ça?
Il y en a 5 à Victoria. Merci Marie-Hélène. D'ailleurs, je vais citer le titre de l'article. Mm-hmm. Take down a parking lot and put up a paradise. Donc, démolissez un stationnement à étage et établissez un petit paradis.
Oui. Alors, pourquoi un paradis? Ben, imaginez-vous, vous êtes dans la rue.
C'est une boutade, hein?
Oui, mais pourquoi? Mais je trouve que c'est vrai parce que pour quelqu'un qui est dans la rue ou qui vit dans sa voiture avec ses 2 enfants, même une petite pièce, c'est un paradis.
Effectivement.
Vous avez aucune idée de la douleur, du stress que ces gens-là vivent. Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est que ces parkades, c'est parce que c'est le mot qu'on utilise ici, appartiennent à la municipalité.
Oui.
Il y en a plusieurs qui ont été construits il y a plusieurs années et qui, d'ici une année ou deux, devraient être démolis d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne correspondent pas aux normes en compte les tremblements de terre.
Exact. Donc ça c'est une des préoccupations. Donc ça ajoute au postulat de la chroniqueuse voulant qu'on doit faire quelque chose.
Ouais.
Mais on imagine déjà les critiques des commerçants.
Ouais.
Qui tiennent absolument à ce que les automobilistes puissent venir faire leurs emplettes, leurs achats au centre-ville. Mm-hmm. On imagine aussi les critiques faciles qui disent on va pas non plus donner des logements comme
ça.
Alors ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière et rappeler qu'au centre-ville, on a une portion de la population qui est au service des autres.
Oui.
À travers des petits
boulots.
Des petits boulots essentiels.
Des parfois 2 ou 3 jobs, comme toi, comme moi, comme la plupart des gens qu'on connaît.
Et ces gens-là, au nombre de 24 000 seulement dans le centre-ville, ont besoin de se loger.
Ben oui.
Et c'est d'une logique, je veux dire, basique, là. Il faut loger ces gens-là. Même les commerçants le reconnaissent.
Oui.
Si tu prends une ville comme Whistler, qui a des problèmes de logement énormes, ça atteint des proportions telles que les commerçants réalisent l'importance du logement. Lorsque les gens vont camper en forêt durant l'hiver pour pouvoir travailler à Whistler, on a un problème même de santé publique. Ça devient dangereux pour tout le monde.
C'est un petit peu plus froid que Victoria.
Effectivement.
Hein? Mais écoute, la solution, évidemment, il va y avoir des détracteurs. Hein?
C'est ça.
Les détracteurs vont dire, mais où est-ce qu'ils vont stationner? Alors, qui nous empêche de faire des stationnements souterrains? Qui nous empêche de faire des lignes d'autobus réservées depuis des parkings, comme ça se fait à Québec, comme ça se fait à Montréal, où il y a des parkings réservés pour les utilisateurs des transports en commun?
Oui,
En périphérie. Oui. On voit facilement, par exemple, au bout d'Admiral, Mackenzie, dans ce coin-là.
Oui.
Et pourquoi ne pas avoir de ces endroits-là? Pourquoi ne pas utiliser les voies de chemin de fer qu'on a, qui n'ont pas été détruites, qui parcourent l'île en entier? Le gouvernement fédéral donne des sous pour les infrastructures. Oui. On serait capable d'aller à ce moment-là, de réduire notre trace carbone, notre empreinte carbone, en ayant, pourquoi pas, des trains électriques? Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de retourner au train à vapeur là avec du charbon. Donc, on pourrait aller chercher ces gens-là, avoir un train de banlieue, comme on a dans les grandes villes maintenant.
De toute manière, on cherche à réduire l'empreinte carbone de la ville.
Oui.
Ça, c'est une volonté
37%
avancée. 37%
de la pollution de l'empreinte carbone de la Colombie-Britannique vient du transport.
Oui.
Ici, sur l'île, en Colombie-Britannique, on n'a pas de loi sur les minounes. Alors, toutes nos voitures de 1942 qui ont pas de système d'échappement, de catalyseur pour l'échappement, produisent un supplément encore d'empreinte carbone. Donnons des structures de transport en commun. Lorsqu'on construit des bâtiments, comme par exemple, supposons qu'on prend le parking qui est juste ici sur Yates.
Oui, Yates.
Construisons une tour à étage, parce que maintenant, avec les nouvelles normes du bâtiment, on peut construire des tours à étage qui sont contre les tremblements de terre, qui rendent les tremblements de terre ben, plus ou moins sécuritaires, mais enfin, tu sais ce que je veux dire.
Oui.
Mettons de la géothermie.
Oui.
Faisons un toit vert.
Puis il serait pas interdit d'inclure un petit stationnement dans cette tour.
On peut faire un stationnement souterrain là, sans aucun problème.
Ouais.
Et si ce sont des gens justement qui travaillent au centre-ville, ben ils n'auront pas besoin de se déplacer. Ils n'auront peut-être pas besoin de voiture.
Voilà. Donc ça, il faut tempérer les effets de cette crise qui est vraiment critique et aiguë et qui entretient certains liens avec la crise des opioïdes, par exemple, et le phénomène de l'exclusion. Donc on a là une solution pratique pour un groupe de travailleurs qui est oublié, mais on a aussi par voie de conséquence un effet sur la santé publique,
sur la société,
sur la société dans son ensemble.
Malheureusement, les détracteurs de ce genre d'idées novatrices seront souvent les mêmes gens qui vont tenter de balayer du revers de la main le problème lui-même. Je pense qu'en tant que société, il faut changer. Il est évident que notre manière de faire ne fonctionne pas, nous amène droit à la faillite.
Oui.
Il faut changer ça. Je comprends les propriétaires de maisons qui disent, bon ben moi j'ai quelqu'un, on en a des cas qui sont venus ici à la Société francophone, des gens qui disent, ben moi j'habite dans le même sous-sol depuis 17 ans. Le monsieur vend sa maison, les nouveaux locataires ne veulent pas de moi, qu'est-ce que je fais? Je payais 450$ par mois, je pourrais pas nous offrir plus. Il faut qu'on arrête. Et le capitalisme, là, c'est pas supposé de marcher.
Alors, on peut peut-être ouvrir une parenthèse sur des déclarations récentes de la maire Lisa Helps, qui a invité les gens de Victoria à accueillir des gens qui avaient un problème d'accès au logement et des gens, y compris des gens qui sont sans abri, en itinérance.
Oui. On parle des gens, par exemple, qui ont des Airbnb. Qui loue pour des touristes les fins de semaine.
Airbnb, à travers le site le site web Airbnb.
Quelqu'un que très proche de Madame la maire, d'ailleurs, a un Airbnb à 2 500 $ par mois.
C'est ça. Donc, cette déclaration a révélé des contradictions.
Ouais.
Et on vit tous ces contradictions-là. On est finalement, lorsqu'on s'examine, des fois, on voit qu'on a nous-mêmes des contradictions.
Ouais.
C'est nécessaire d'en parler.
Oui.
Il faut aussi poser des gestes.
Oui. Ben, par exemple, il y a un petit programme qui a été fait à Portland, en Oregon, puis eux autres, ils ont 4000 personnes dans la rue. Hein?
Pour clarifier, avant que tu abordes le sujet de Portland, juste pour clarifier, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lisa Helps a fait une déclaration voulant invitant les gens de Victoria à accueillir des sans-abri chez eux pour des périodes indéterminées.
Ouais.
Mais quelques médias, avec un petit peu de malice, ont fait remarquer à la maire que sa partenaire, sa conjointe, tenait un Airbnb à 2 500 $ par mois dans sa propre maison.
Ouais.
Et Lisa Helps n'a pas posé le geste qu'elle encourageait les gens de Victoria à faire, c'est-à-dire accueillir gratuitement.
Ouais.
Donc, c'est la contradiction dont on parlait à l'instant.
Ton règlement, par exemple, tu disais pas ton règlement, mais le règlement de la ville qui dit que on peut maintenant déréglementer le jardin.
Oui.
Alors, Portland,
ça, c'est bien.
Portland, en Oregon, ils ont ce qu'ils appellent des pods, c'est-à-dire des coquilles.
Oui.
Ces coquilles-là, c'est des mini-maisons.
Des petits refuges.
Des petits refuges, des mini-maisons. Ça peut être aussi petit que juste la place pour un lit. Dans une boîte.
Tiny house.
Mais ça peut être plus petit que ça aussi,
encore?
Un pod. Ça peut vraiment être, à l'exemple, un peu des chambres d'hôtel au Japon. Il y a vraiment de la place pour un individu et son bagage.
Donc, si vous êtes une famille, je dis bourgeoise, sans être péjoratif nécessairement, maison-jardin, vous construisez un petit pod à l'arrière, vous pouvez accueillir légalement.
Oui.
Une personne qui est en difficulté d'accès au logement.
Par exemple, vous achetez une remise pour 3 000 $, on est capable d'avoir une remise, on peut y installer l'électricité, peut-être l'isoler pour l'hiver. Bon, voilà, ça vient de vous coûter peut-être 5 000 $. vous pouvez louer une personne.
OK. On voit le topo. Est-ce que ça a connu un succès à Portland, ça?
Oh, ça a commencé très long. Faut changer les mentalités. Il y a toujours ce stigma.
Mais on a la même chose à Victoria, désormais.
Il est possible de le faire.
Oui.
Il est possible de le faire. Est-ce qu'on le fera?
À suivre.
Ouais, à suivre.
OK. Ben, le temps est impitoyable encore une fois, Marie-Hélène. Merci beaucoup.
Toujours agréable de parler avec toi, Alexis. Et je reviendrai peut-être la semaine prochaine te parler des résultats de notre projet dont on a déjà parlé vers toi. Comprendre pour mieux aider avec la Société francophone de Victoria.
Oui, c'est un coup de sonde que vous avez fait auprès des personnes en situation d'itinérance dans la grande région de Victoria.
Oui, auprès des organismes. Et on a aussi produit, et ça va être disponible au courant de la semaine prochaine, un livret qui s'appelle le guide de la rue, guide de la survie, si on veut. Qui s'adresse à tout le monde qui est en danger d'itinérance ou qui est en itinérance.
Francophone,
c'est fait en français.
Bon.
Qui parle de tous les organismes de nos droits, nos règlements, tout ça, des endroits où on peut s'adresser. Mais je reviens la semaine prochaine.
Utile et nécessaire. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On se parle la semaine prochaine.
Au plaisir, Alexis.
Fin de cette édition du 14 juillet. Merci de l'avoir suivi à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Je précise qu'on entendait plus tôt dans l'émission en jazz le quintet formé par le jazzman Benjamin Deschamps. C'est tiré de son plus récent album. La pièce s'intitulait « De minuit ». Voilà, excellent week-end à tous. Alexis Gagnon au micro qui vous donne rendez-vous pour un nouveau débrief lundi 17 juillet. À très bientôt.
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
Aimez-vous le jazz? John et moi, Kevin Simonard, votre hôte et animateur de ce soir en jazz, sur les ondes de CILS FM, tous les vendredis soirs à 22h. C'est le temple d'en jazzer.
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
Entre les yeux ronds et les sourires en coin, les larmes de fond et les armes de poing, entre l'espérance et les fausses promesses, le temps qui passe et l'espace qui reste, entre les têtes hautes et les dos ronds, les c'est pas de ma faute, puis les pardons, entre l'envie sauvage de partir au loin, et l'esclavage des pétropoints, entre la course à pied et celle des étoiles, le bonheur blasté par de l'amour sale, entre le grand jour puis la petite vie, entre perdre le tour et puis trouver Charlie. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires, qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre le mardi gras et le vendredi saint, les soldats d'Allah, ceux qui croient en rien, entre les païens et les paillettes, paraîtrait même que Dieu sait plus quoi mettre, entre le bleu du jour et les coups d'un soir, le grand retour et les faux départs, entre perdre le nord et toucher ton sud, entre le prix de l'or et le coût de la solitude. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires, ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre mon horoscope et mon biscuit chinois, une bonne syncope et la mauvaise foi, entre les nuits blanches et les idées noires, le vrai silence et les faux espoirs, entre le bouche à bouche et le porte à porte, entre ce qu'on étouffe et ce qu'on exporte, entre les grands froids et les chauds de nuit, entre ce qu'on ne voit pas et tout ce qui reluit. Donne-moi les trois couleurs primaires, je te colorerai toutes les nuances de la terre. Veux-tu qu'ensemble on fasse pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance.
Paris. Sous la pluie, on s'est embrassé. En anglais, on s'est embrassé. Et tu pleurais. Mais rien n'a paru. Tes larmes sont disparues avec l'air.